Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, beaucoup de monde autour de la table, à commencer par monsieur François Bordet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre, artiste, et vous allez exposer prochainement à l'ancien monastère de Sainte-Croix une exposition de peinture à partir du 14 septembre.
Plutôt des dessins d'ailleurs, des dessins langue de Chine à partir de modèles vivants. Donc ce sont des dessins qui ont été réalisés en atelier de modèles vivants dans le cadre d'une école d'art, celle de Tours en particulier.
Ensuite, nous avons monsieur Bruno Robin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes bénévole et membre du CA de l'Ancien Monastère.
Donc il y a une commission culture au sein de l'Ancien Monastère. Et il y a toute une programmation tout au long de l'année, avec à la fois des spectacles, des résidences pour artistes et des expositions, effectivement. Et donc, et c'est que des bénévoles, enfin... Je dis que pas tout à fait. Il y a un salarié qui fait partie de la commission, mais il y a essentiellement des bénévoles qui animent cette commission culture. Voilà.
Et puis nous avons Dominique Zandé, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes aussi membre de la commission culturelle et qui s'occupe en particulier des spectacles et des résidences.
Tout à fait, oui. Donc au sein de la commission culture, on s'est un petit peu partagé la tâche et nous sommes plusieurs à organiser la saison spectacle ou la saison résidence, puisque certains artistes viennent également en résidence à l'ancien monastère.
Vous êtes ici pour nous parler un petit peu de ce qu'est l'ancien monastère, qui demeure toujours ancien monastère. Il y a eu à un moment donné, il y a quelques années de ça, un désir de renouveler cette appellation.
Oh, l'ancien monastère, ça ressemble tellement à un monastère qu'il y a une certaine logique à l'appeler ancien monastère. Donc c'est une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui gère ces lieux, si j'en parle un tout petit peu pour présenter le monastère. Avec la vocation de ce lieu, c'est de l'hébergement principalement, mais pas que. Donc, comme c'est une coopérative, il y a vraiment des objectifs de l'économie sociale et solidaire en réalité, hein, et qui sont culturels, qui sont de partage, qui sont d'ancrage dans le territoire, etc.
Et puis, il y a la partie restauration hein, de ce lieu qui se fait depuis un certain nombre d'années, grâce aussi à du bénévolat.
Oui. Tout à fait. Donc, restauration, d'ailleurs, dans les deux termes, dans les deux sens du terme, puisque on restaure les bâtiments, effectivement. Et ça faisait partie des objectifs de l'ancien monastère, puisque la coopérative, en fait, est locataire, en fait, des locaux, pour un bail de 25 ans, je crois, et a pour mission, entre autres, avec les propriétaires, de rénover ces locaux qui étaient vraiment dans un état limite, quoi. Donc la couverture a été entièrement refaite, il y a des projets d'isolation, etc. Donc c'est un des objectifs, mais pas le seul.
Et puis l'aménagement de cette cour intérieure qui a permis justement cet été d'accueillir un orchestre.
Effectivement, nous avons pu accueillir une grosse formation puisqu'il y avait 130 choristes, 25 musiciens dirigés par Monique Sirène, plus 250 spectateurs, tout ça dans l'ancienne cour, dans la cour, rénovée de l'ancien monastère. Ça a été une belle soirée.
D'ailleurs, c'est une vocation d'accueillir les artistes, le spectacle, l'art dans ce lieu. Oui. Mais il y a d'autres choses aussi que vous proposez.
Donc c'est principalement de l'hébergement, mais c'est très varié en réalité. Donc l'hébergement, c'est pas juste un particulier qui vient pour une chambre d'hôtel. C'est des groupes et c'est un centre d'accueil international et donc ils viennent de partout, généralement. Enfin. Et y compris, ou peut-être surtout, de l'étranger, des Hollandais, des Japonais, des Belges, des Suisses, des Anglais, etc. et souvent des groupes à vocation culturelle. C'est en fait comme des séminaires, bien souvent, et donc des groupes qui viennent pendant 15 jours.
Vous-même, je pose la question hein, à vous et à Dominique. Qu'est-ce qui a fait que votre chemin soit allé vers ce monastère ?
Vas-y, vas-y. Alors, comment est-ce que je croisais l'ancien monastère ? D'abord, comme résidente à Die, où je venais de temps en temps assister à un spectacle. Ensuite, j'ai quitté le territoire d'Iwa quelques années et j'ai pu organiser une tournée de mon groupe vocal dans la Drôme. Et c'est tout naturellement qu'on a été, on a demandé l'hébergement au monastère et on a été formidablement accueillis. Et donc, j'ai décidé, en septembre dernier, j'avais un peu plus de temps, et j'ai décidé de m'investir dans ce fabuleux projet du monastère et de participer avec les autres bénévoles au rayonnement du lieu. Rayonnement du lieu non seulement culturel, mais aussi, comme l'a dit Bruno, tout ce qui est économie solidaire, puisqu'on pourrait en parler longtemps, mais quand vous parliez de restauration tout à l'heure, Bruno disait restauration dans les deux sens du terme. Quand c'est de la restauration pour manger, et ben, c'est toujours avec des produits qui sont des produits locaux, voire très très locaux, bio. Donc il y a toute une réflexion à ce sujet aussi.
D'ailleurs, autour de ce monastère, il y a des terres avec des jardins. Est-ce qu'il y a une probable utilisation de ces terres pour justement faire du produit très local ?
Alors il y a un jardin botanique déjà qui rappelle un petit peu le jardin des moines et qui est dont s'occupe Lise May, donc une naturopathe qui est là toute l'année en convention avec le monastère. Donc elle organise des visites, elle fait des ateliers d'utilisation des plantes, de fabrication de baumes, d'apéritifs. Et puis, elle cultive aussi le petit jardin des cuisiniers, le petit coin des cuisiniers où on a toutes les plantes aromatiques. Donc, les cuisiniers n'ont qu'à sortir sur le pas de la porte pour aller cueillir le basilic, l'origan ou les tomates cerises ou les fleurs pour décorer les assiettes.
Vous êtes ici aussi pour nous parler des temps à venir au niveau des spectacles et des expositions. D'ailleurs, à commencer par celle de François Bordet. Donc, vous exposerez à partir du 14 septembre une série de dessins, de croquis au public.
Alors, donc, je vais proposer effectivement une série de dessins que j'ai sélectionnés parmi des centaines de dessins qui sont réalisés au La Vie d'Angle de Chine. C'est une sélection, forcément, parce que ce sont des dessins qui sont réalisés en très peu de temps, vu le contexte de l'atelier. Souvent, les pauses sont inférieures, comprises entre 5 et 10 minutes, ce qui nécessite une certaine célérité dans l'exécution du dessin. Et donc, j'ai choisi une cinquantaine de ces dessins pour les montrer au public. Et aussi, j'ai l'intention de proposer quelques-unes de mes peintures qui ont pour sujet principalement les paysages d'Idiwa. J'ai choisi ça parce qu'en fait, ce sont des très grandes peintures et j'ai beaucoup de mal à les montrer dans des endroits suffisamment grands pour avoir les conditions correctes pour les montrer. Donc, je vais voir selon la place dont je dispose pour en apporter quelques-unes.
D'ailleurs, c'est un lieu qui se prête bien aux expositions. Il y a la coursive intérieure qui accueille ces expositions. Et puis, il y a une petite pièce aussi qui permet...
Donc c'est vrai que dès qu'on rentre presque dans le monastère, par la porte principale, on rentre dans la cour et... Oui, ça évoque vraiment un monastère. Ces grands bâtiments qui sont tout autour de la cour centrale, ça évoque un cloître. Et déjà, quand on rentre dans le bâtiment, on est dans cette ambiance peut-être artistique, peut-être. Oui. En tout cas, d'émotion que dégagent les bâtiments. Et il y a deux grands couloirs et beaux couloirs. Je dis beaux parce qu'il y a une belle lumière, des grandes fenêtres qui éclairent ces couloirs, qui sont hauts de plafond, qui sont assez larges et qui servent de lieu d'exposition. Donc il y a deux couloirs perpendiculaires l'un à l'autre. Le deuxième débouchant effectivement sur un petit salon. Et voilà, et c'est sur les murs de ce couloir que se présentent les expositions qui sont assez variées. Donc là, actuellement, il y a une exposition de peinture, des très belles peintures, de paysages aussi. Hein. C'est Isabelle Bremer qui expose ses grandes peintures. de forêts, que de forêts. Qui sait. Et on ne voit pas le ciel, on ne voit pas les chemins, c'est que les arbres, comme si on plongeait à l'intérieur de ces peintures. Et vraiment, ça vaut le coup d'aller voir. C'est gratuit, hein, les expositions sont gratuites. Et puis donc, bien sûr, donc, dans quelques jours, François Bordet qui vient de parler de son exposition. J'en profite peut-être pour dire que au sein de la commission Expo, donc on lance un appel à candidature aux artistes. On sait qu'on retiendra, parce que le temps n'est pas extensible, on sait qu'on retiendra de 9 ou 10 artistes entre le mois de mars et le mois d'octobre. Et il y a souvent plus de candidats que de possibilités d'exposer. Et donc on fait une sélection selon nos possibilités, selon ce qui nous plaît, mais aussi pour essayer de varier les expositions. Donc il y a eu des sculptures, il y a eu des gravures, il y a eu des espèces de performances d'une jeune femme qui a fait une belle exposition à partir de récupération de matériaux. Elle tricotait des bouteilles de lait qu'elle avait lacérées, c'était assez beau, c'était même très beau. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Et le dernier, c'est du 5 au 24 octobre, ce sont deux personnes locales, Vincent Astier et Michel Fatras, qui exposeront des photos et des sculptures qui sont fort sympathiques. Voilà.
Le choix que vous opérez a certainement des critères, mais le principal est lequel ?
Il faut qu'il y ait un consensus, je dirais. Donc on est, sinon professionnel, mais on aime tous bien, on fréquente des expositions, des lieux d'exposition, etc. Il y a une peintre qui est professionnelle, hein, Odile Toulier. Et il y a un grand amateur de dessin et de peinture. On est deux autres à dessiner et peindre aussi. Bon. Et donc, selon les coups de cœur, mais pas seulement... Donc, selon les coups de cœur, il faut qu'on soit à peu près tous d'accord pour se dire que celui-ci ou celle-ci sort un peu du lot. Qu'on essaye de diversifier les styles. S'il n'y avait que des gravures, ça ne marcherait pas, quoi. Voilà. Et on essaye de... En même temps, puisque c'est l'objectif du monastère, de s'ancrer dans le territoire, il y a un objectif d'éducation aussi. Bon. Et donc, vraiment, on essaye qu'il y ait des gens locaux, mais pas que. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas le seul objectif de présenter les artistes locaux. Et donc, les appels à candidature sont assez vastes. Et il y a des gens qui viennent de Marseille, de Lyon, de Paris même, etc. Voilà.
François, comment en êtes-vous à être exposé ?
J'ai été choisi l'année dernière. Donc en fait, je viens depuis une quinzaine d'années à Barnave, où j'ai déjà présenté des expositions, notamment dans une petite galerie qui se trouve à Barnave, la galerie du Ventahir. Le sujet, c'était « Regarder la mer », il y a 2 ans de ça. Et puis l'année dernière, avec aussi une peintre de Barnave, on avait présenté une exposition sur les natures mortes qu'on avait nommée « Vue rapprochée ». Voilà. Et puis conjointement, dans le village de Barnave, on est un petit groupe de 6 ou 7 artistes. Donc il y a des peintres, il y a des graphistes, il y a des performeurs. Et l'année dernière, on avait fait un parcours d'art à Barnave à l'occasion du petit marché qui se passe le vendredi soir pendant l'été. Et donc, ça a eu beaucoup de succès et ça a attiré pas mal de monde. On n'a pas fait cette année parce qu'il y a beaucoup de gens de ce petit groupe qui étaient occupés à d'autres choses, mais on a l'intention de réitérer l'expérience l'année prochaine, notamment avec une proposition de la mairie de faire une grande fresque sur un mur du centre du village.
François Bordet, la peinture et vous, c'est une longue histoire.
Oui, enfin, je considère que je suis amateur, puisque mon métier, j'étais scientifique. Et je raconte toujours que c'est ma grand-mère qui me faisait peindre des tulipes quand j'allais chez elle le jeudi, puisque quand j'étais petit, c'était le jeudi qui était le jour de congé pendant la semaine. Donc quand j'avais 6-7 ans, je passais les jeudis chez elle à faire dessiner. Et puis, bon an, mal an, j'ai toujours continué à dessiner, à peindre. Disons, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à faire ça plus sérieusement en fréquentant l'école d'art de Vitry-sur-Seine, d'ailleurs, là où j'habitais. Donc, j'ai appris à peu près toutes les techniques de peinture, de dessin, même de sculpture, puisque j'ai fait pas mal de modèles vivants en terre, d'ailleurs, que j'avais d'ailleurs exposé à Barnave il y a quelques années. Ces dernières années, j'ai travaillé à l'école d'art de Tours, notamment dans l'atelier de modèles vivants de Christian Henry, qui est quelqu'un d'un petit peu réputé pour ça.
Dominique, qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver à l'ancien monastère ?
Une envie de contribuer à faire vivre ce lieu, à donner un petit peu de mon temps, puisque j'en ai un petit peu, et de mon énergie, parce que je trouve que le projet de la SIC Ancien Monastère est vraiment un projet fantastique. Donc, faire rayonner ce lieu au niveau de la culture, parce que, comme Bruno vous l'a dit, l'Ancien Monastère accueille essentiellement des groupes pour de l'hébergement, mais ne veut surtout pas être fermé à la population locale. Donc, il faut les faire entrer dans le lieu. Et c'est une façon de les faire entrer, de les convier à profiter de l'Ancien Monastère, de programmer spectacles ou expositions dans ce lieu.
Et résidences aussi, hein. Des résidences qui consistent en quoi ?
Alors les résidences, ce sont des artistes qui font des demandes pour occuper le lieu pour monter un spectacle, hein. Ça peut être une, deux, trois personnes ou plus. Et ils sont en convention avec le monastère et à l'issue de la résidence, ils proposent ce qu'on appelle une sortie de résidence, donc où ils vont montrer le travail qu'ils ont accompli. Alors je peux citer un groupe qui m'a vraiment ému. J'étais pas encore bénévole, hein, donc j'étais juste spectatrice. Donc c'était un groupe de musique baroque portugaise qui est venu en résidence au monastère l'an passé. Ils ont fait une sortie de résidence en septembre, donc un groupe de musique baroque exceptionnel qui jouait le lendemain à Lyon. Et on a eu le plaisir de les écouter dans l'église-temple de Sainte-Croix, qui était pleine à craquer. Et on s'est tous dit, mais quelle chance on a de les écouter ici à Sainte-Croix, alors qu'autrement, il aurait fallu courir les grandes villes ou même aller jusqu'au Portugal pour les écouter, parce qu'ils ne se donnent pas souvent en France. Voilà, un exemple.
Est-ce que la belle musique peut amener larmes à l'œil ?
Ah oui, c'est émouvant. L'an passé, pour ce groupe, quand le groupe de quatre chanteurs, dont des contre-ténors, ont brisé le silence et les quatre voix se sont élevées, mais c'est une émotion extraordinaire.
Est-ce qu'il y a des idées aussi, ou d'éventuellement d'accueillir en résidence des artistes peintres qui exposeraient, ou plasticiens globalement ?
Pourquoi pas ? La demande n'en a pas encore été faite, à vrai dire. Mais on peut très bien imaginer, oui, bien sûr, qu'un peintre vienne peaufiner son thème de peinture de paysage ou de peinture de la Drôme ou de n'importe quoi, évidemment. Oui, ça c'est peut-être une idée à creuser.
C'est un lieu inspirant, en tout cas.
Oui, c'est un lieu inspirant. Et donc, tout à l'heure, vous posiez la question à Dominique, pourquoi vous, ici, dans ce monastère ? Et je me permets, moi aussi, de répondre aussi à cette question. Et on est arrivé depuis 3 ans, en fait, dans la vallée, dans le coin. On habite dans la vallée de Quin, hein. Et vraiment, le monastère, c'est la porte de cette vallée, c'est une des portes aussi du Diois. Hein. Et c'est un très beau lieu, donc on s'est précipité dessus pour voir ce bâtiment qui dominait la Drôme. Et on a été séduit par le bâtiment et le paysage, et on a été séduit, mais c'est un peu toute l'histoire du Diois qu'on perçoit, par l'esprit de ce lieu, quoi. Où on a l'impression que c'est effectivement une nouvelle forme d'économie, une nouvelle forme de vie sociale possible, quoi. Et peut-être que c'est un peu en avance sur ce qui se passe ailleurs. Voilà, donc c'est très excitant. Ouais.
C'est un lieu, pour vous, assez quotidien ?
Peut-être pas quotidien, mais ça fait partie de notre vie, en tout cas. Et comme on n'est pas loin, en plus, on y passe facilement. Et, Et c'est avec grand plaisir qu'on y va. Ce n'est pas des réunions. Enfin, il y a des réunions, c'est souvent d'ailleurs, mais ce n'est pas la même chose qu'une réunion. C'est souvent dans la cour du monastère, autour d'une table, et on boit un café, etc. C'est une vraie...
On va arriver à la programmation aussi, hein, pour les prochains jours, à commencer par samedi 7 septembre avec la compagnie ZAD qui proposera le Sunset Café, si je ne me trompe pas. Et donc, est-ce que, par exemple, Dominique, vous pouvez nous présenter ce spectacle donc?
Alors David Conrad en parlerait mieux, le directeur de la compagnie, mais c'est une compagnie qui a joué au Festival d'Avignon dans le Avignon Off pendant un mois. Et donc ils nous font le plaisir, après une petite coupure de vacances, de venir faire leur reprise, leur rentrée à Sainte-Croix, à l'ancien monastère. Donc c'est samedi 7 septembre à l'ancien monastère de Sainte-Croix à 20h30. Je ne faisais pas encore partie de la commission culture quand ce spectacle a été choisi, donc je ne suis pas très bien placée pour en parler, peut-être. Mais le programme figure en bonne et due forme sur le site du monastère.
Quelles sont les suites donc, de programmation pour les spectacles? Il y aura l'exposition de François Bordet hein, le 14 septembre, et puis...
Alors, fin du mois de septembre, il va y avoir un festival des arts du cirque. Alors, on n'en parle pas trop encore parce qu'on va lancer la communication officielle dans quelques jours. Il faut juste retenir que ça va être un gros événement sur deux jours, que ça va monopoliser plein de personnes, plein de bénévoles, plus que le groupe de bénévoles habituel. Donc là, on va passer un peu plus souvent qu'une fois par semaine au monastère. Donc, à suivre les éphémères 28 et 29 septembre, mais à suivre avec plus d'informations.
RDY est souvent présente hein, lors de ces manifestations des éphémères, puisque nous avons un studio à ce moment-là et nous recueillons les artistes, les propos d'artistes de passage.
Oui, hein, donc juste en lisant quelques lignes sur les éphémères, hein, l'univers du cirque, magie burlesque, clown, théâtre de rue, théâtre jeune public... entresorts, bon, etc. Donc c'est beaucoup pour les enfants, mais pas que, et c'est vraiment super. Hein, c'est pendant plusieurs jours.
Spectacle familiaux, hein, c'est pour les familles.
Et je pense que ce sera peut-être le sujet d'une émission complète pour les prochaines semaines. Cette saison continue entre exposition, spectacle circassien, théâtre, d'autres propositions.
Alors oui, après on va continuer le 9 novembre avec Forget Me Not, donc une formation de 5 jeunes femmes. Et puis il y aura encore de la chanson folk, encore d'autres choses jusque mi-décembre. Et peut-être en novembre, on est en train de préparer ça hors programmation, un spectacle dédié aux tout jeunes enfants. Quand je dis tout jeunes enfants, c'est vraiment 1 à 2 ans. Donc c'est un spectacle qu'on a rajouté dans la programmation parce que ça nous semblait intéressant de toucher ce public-là et que les tout-petits soient déjà en contact avec du spectacle vivant. Donc à suivre début novembre, on en reparlera aussi. Forget Me Not, c'est un groupe qui a été repéré par Stéphane, une des personnes qui fait partie de la commission culture et qui a vraiment œuvré pour qu'elle puisse venir jouer au monastère. Apparemment, c'est une grosse pointure.
Donc, vous êtes en train de préparer la prochaine année. Vous avez quelques pistes?
On lance l'appel à candidature, donc on attend que les candidats se proposent. A priori, ce n'est pas nous qui allons à la pêche, sauf comme une émission aujourd'hui pour dire bah, ceux qui nous entendent, proposez vos candidatures, allez voir le monastère. Alors, c'est peut-être le moment de dire qu'il y a un site. On peut aller voir sur le site du monastère qu'est-ce que c'est que le monastère, quelles sont les activités culturelles et comment on fait pour candidater. Le site, c'est donc www.le-monastère.org.
Donc, ça, c'est un appel à candidature hein, pour les spectacles et c'est ouvert jusqu'au 15 décembre.
Oui, donc les gens... Donc, il faut... Les gens sur le site ou en écrivant par mail donc au monastère dont disent « voilà, je suis intéressé, soit pour un spectacle, soit pour une résidence, pouvez-vous m'envoyer le dossier de candidature ?» Donc on a des dossiers qui sont à peu près bien organisés avec des conventions. On explique ce que c'est que le monastère et voilà les conditions pour qu'ils remettent leur candidature. Voilà, donc là, c'est ouvert. Il suffit que les gens nous demandent, on leur envoie le dossier. Après, en fin d'année, une fois qu'on a tous les dossiers, c'est-à-dire que les dossiers peuvent arriver jusqu'au 15 décembre, à ce moment-là, les différentes commissions se réunissent On va, bien sûr, on écoute, on va voir les sites, on appelle les gens, on a des échanges. Et ça dure pendant 3 semaines où petit à petit, on se fait notre choix. Hein, donc, les gens intéressés peuvent proposer leur candidature pour des spectacles, pour des musicaux ou autres, ou théâtre, ou danse, et pour des expositions, et quel que soit le support de l'exposition. Hein, donc, peinture, dessin, gravure, sculpture, etc.
Dominique et Bruno, vous avez pratiqué un certain domaine artistique pour vous être inscrit dans cette commission culturelle.
Moi, j'ai pratiqué la musique et notamment le chant choral que je pratique toujours dans le Diwa d'ailleurs. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu d'oreille pour ça. Essentiellement ceci, oui, la musique.
Et moi, alors j'ai un boulot qui touche un tout petit peu à ça. Je suis architecte et j'ai toujours aimé dessiner, toujours. Voilà. Et donc, je dessine et encore maintenant beaucoup. Des modèles vivants aussi, ou dessins de paysages. Et j'ai aussi exposé au monastère à une époque. Et voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà.
L'ancien monastère, mis à part l'exposition ou présentation de spectacles, il y a des possibilités d'animation aussi en cours d'année, durant l'année. Est-ce que c'est ouvert pour des activités quelconques, culturelles?
Alors ça peut être ouvert sous réserve qu'il n'y ait pas de groupe, puisque l'objectif numéro un, c'est l'hébergement de groupes. Donc si le monastère est plein à craquer, on va assez difficilement pouvoir mettre une conférence en place. Mais on peut toujours s'adresser à l'ancien monastère qui loue aussi des salles. Hein. Il y a des assemblées générales qui se tiennent là. Donc c'est toujours possible effectivement d'organiser quelque chose, mais sous réserve qu'il y ait de la place à ce moment-là.
D'ailleurs, vous pouvez accepter jusqu'à combien de personnes par groupe?
Alors, quand vous dites personnes par groupe, c'est vous parlez des résidents ou...
De résidences ou de séminaires, peut-être, je ne sais pas.
Alors, en hébergement, il y a, je crois, au moins 70 personnes qui peuvent être hébergées, et couchées, et on leur sert le repas, petit-déj, repas, etc. Mais il y a des grandes salles qui peuvent accueillir plus de personnes que ça. Et donc, effectivement, pour une AG ou pour une fête familiale, etc., il y a une salle qui était une ancienne salle des fêtes ou salle de cinéma, hein, sur la place de Sainte-Croix, là-haut, à côté du monastère, qui fait partie des locaux du monastère.
D'accord.
Et qui permet d'accueillir un grand nombre de personnes, une de 200 personnes à peu près. Et puis, il y a plusieurs salles assez grandes. Voilà.
Alors, au monastère, il y a un certain nombre de salles maintenant qui sont disponibles et ça va de la petite salle un petit peu intime à la grande salle, effectivement, où il peut y avoir 250 personnes. Donc on a un petit peu tous les choix de salles possibles et souvent les artistes, quand ils viennent, on leur montre différentes salles pour savoir dans laquelle ils se trouveraient bien pour interpréter ce qu'ils ont interprété.
Et puis, les repas sont proposés lors de ces séminaires. Il y a une équipe donc, de cuisiniers, une belle équipe pour ça.
Il y a une équipe de salariés au monastère, bien sûr, sans quoi ils ne tourneraient pas. Et puis, il y a deux chefs cuisiniers qui se relaient. Il y a des salariés qui sont polyvalents aussi, qui donnent un coup de main en cuisine. Je dois dire que moi-même, j'irais bien donner un coup de main en cuisine pour voir un petit peu comment ils préparent les plats, parce que c'est toujours excellent et très goûteux.
François Bordet, vous avez candidaté pour exposer, hein, selon certainement un appel.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous provoque d'être justement dans ce lieu?
Je suis très très content. Je trouve que le lieu est magnifique et... Enfin, c'est même une certaine fierté de pouvoir accrocher des dessins sur ces murs qui sont magnifiques et dans un lieu magnifique. Et donc, j'attends avec une certaine impatience et un certain plaisir de pouvoir vivre ces journées. Et surtout qu'il se trouve que par hasard, mon créneau se trouve pendant les journées du patrimoine Et donc là, je ne sais pas exactement, je crois que j'ai compris que le 21, il y avait une visite du monastère, une visite guidée. Et donc, je serai là, évidemment. Et donc, j'ai posé la question, mais je n'ai pas encore la réponse, de savoir si je pouvais organiser moi-même un petit apéritif ou quelque chose comme ça dans l'après-midi. Mais bon, j'attends pour ça. Et puis, ça va se trouver aussi pendant les journées du cirque. Donc là aussi, ça va faire venir beaucoup de monde. Et donc, il y aura peut-être des gens qui viennent voir le cirque qui seront aussi intéressés par, ces dessins, de personnes. Voilà. Donc oui, je suis très content de pouvoir participer à cet événement.
Justement, les éphémères qui vont avoir lieu fin septembre, il y a un peu de temps en amont de ce festival pour justement préparer un petit peu le terrain pour les artistes, les compagnies. Est-ce que pour vous, François, ça serait l'occasion aussi de croquer encore des personnages ?
Ça n'a pas été évoqué, mais je ne sais pas.
Ah, bonne idée.
Pourquoi pas ?
Bonne idée. Sortie de résidence avec les croquis des éphémères.
Voilà, bon, pourquoi pas, oui. Mais je peux aussi en parler à d'autres amis artistes, à Odile Touillet, par exemple.
Oui, c'est ça.
Ou à d'autres qui aiment bien dessiner des personnages.
On avait évoqué le reportage photo lors de ces journées, mais on n'avait pas pensé au reportage graphique.
On pourrait faire ça, ce serait une bonne idée.
Ouais.
Et donc, vous parlez justement de photos, les photos de qui ?
Alors, c'est en cours, hein. On ne sait pas encore qui viendra faire le reportage photo, mais vous parliez de temps de préparation, donc là, on travaille à la fois bénévole et salarié du monastère, la main dans la main, pour construire ces journées qui vont être une grosse chose à construire. Les compagnies, elles, vont venir s'installer en temps utile à partir du 26 septembre, et puis après, on espère que tout va tourner et on sera là pour accueillir le public, hein, lors de ces deux journées-là. Mais on est en pleine préparation déjà.
Les artistes que vous recevez justement sont en résidence en quelque sorte. Sont-ils logés sur place pour certains ?
Ce sont des compagnies qui sont locales pour la plupart. Donc on travaille avec le labo. Donc Stéphane Hugon qui est bénévole au monastère en parlerait mieux que moi puisque c'est lui qui est en relation avec le labo et la compagnie génétique. Et c'est une co-organisation en fait, monastère et le labo.
Pour rebondir peut-être sur la polyvalence des gens qui travaillent ou les bénévoles qui travaillent dans ce lieu. Et c'est vraiment un peu l'esprit de tout le monastère et c'est les synergies qui se mettent en place entre toutes les activités. Et par exemple, donc, cette histoire d'exposition, mais aussi de résidence pour artistes. Donc c'est un lieu d'exposition, mais ce n'est pas une galerie. Et donc c'est un inconvénient et un avantage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui passe dans le monastère, donc c'est intéressant pour les artistes. Mais en même temps, ce n'est pas une galerie, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas que pour voir les peintures, ils participent à leurs activités, etc. Mais du coup, ça, c'est quand même un intérêt dans les deux sens, c'est-à-dire que les gens qui sont en résidence, qui n'ont rien à voir et qui ne viennent pas forcément pour voir de la peinture, ils sont baignés, à chaque fois qu'ils vont dans les couloirs, ils sont baignés par ça.
Et si je peux ajouter quelque chose, qui vient voir les expositions ? Il y a ceux qui en ont entendu parler, qui ont eu les messages par les réseaux sociaux, qui ont lu la plaquette et qui viennent exprès pour l'exposition. Et puis, il y a aussi tout un tas de personnes qui passent à Sainte-Croix, des fois par hasard, ou qui débarquent dans la cour. Sur la pointe des pieds, ils n'osent pas entrer cette porte majestueuse. Et puis, ils disent, on est là par hasard, on s'est un peu perdu, on faisait du vélo. Bien, entrer, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Alors, on leur dit qu'ils ne peuvent pas visiter les chambres, forcément, mais on les guide vers la salle, enfin le couloir d'exposition, et ils sont toujours ravis d'avoir cette exposition à visiter, de pouvoir discuter avec l'artiste s'il est là. Donc c'est vrai que ça apporte une dimension supplémentaire aux visiteurs ponctuels.
Il y a une pièce qui m'intrigue, j'en ai entendu parler au rez-de-chaussée, c'est la pièce en bois, je ne sais pas si c'est le bon nom.
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a des lambris en bois.
C'est un lieu qui sera ouvert pour les journées du patrimoine ?
Ah oui, enfin, ça fait partie des pièces qu'on montre dans les journées du patrimoine, effectivement. Elle dégage beaucoup, il y a une belle cheminée, il y a des grandes fenêtres et portes. Alors, il y a toute une... Et cette pièce donne sur une grande galerie extérieure, en fait, qui domine ce qu'on appelle le Jardin des Moines, et qui est un très beau lieu aussi. De cette galerie, on voit les trois becs, etc. Donc, cette pièce, dès qu'on y rentre, alors il y a un plafond, avec un très beau plafond en bois, et tous ces lambris tout autour. Bon, c'est un... L'ensemble des locaux dégage beaucoup de... On y est bien, on y est impressionné un petit peu. Mais en même temps, ce n'est pas de l'architecture monumentale. Ce n'est pas une grande architecture. Ce n'est ni inscrit ni classé monument historique. Hein. Mais le site, la distribution des locaux, les volumes, à la fois, donc, on se dit, oulala, on est dans un vrai lieu. Et en même temps, c'est simple. Quoi. C'est pas... Donc c'est cet ensemble de...
Dans cette salle en bois, il y a une très belle toile.
Ah oui.
Et de qui est-elle? J'ai jamais pu savoir.
Elle est de Françoise Donis et c'est une peintre locale. Et je trouve aussi cette peinture magnifique. Et Françoise Donis a exposé il n'y a pas très longtemps au monastère aussi avec d'autres. Hein. Et c'est une très belle peintre. Et il y a beaucoup de ses peintures dans le monastère. Mais il faut dire qu'il y a parmi les sociétaires et les membres très actifs du monastère, il y a Schurt Vartena, qui fait partie de la commission Expo et qui est un grand amateur de dessin et peinture. Et il en a prêté un grand nombre et qui sont exposés dans les chambres et partout. Donc il y a des dons Françoise Donis.
Je reviens un peu sur ce qu'est l'ancien monastère, ce bâtiment, ses dépendances, ses terres. Qu'en est-il justement de ces restaurations et de ces jardins?
Alors les jardins, il y a le jardin botanique et puis il y a tous les jardins et les espaces verts autour qu'il faut entretenir. Donc pour ça, il y a une personne qui est là à plein temps, qui est conventionnée, qui est Lise May. On en a parlé un petit peu. Il y a aussi des woofers qui se relayent, qui restent au moins 3 semaines, des fois beaucoup plus. Et puis il y a des chantiers participatifs. De temps en temps, il faut tailler les buis, il faut désherber les allées du jardin botanique. C'est pas très gratifiant. Alors hop, un petit message de la part du monastère, qu'est-ce qui est dispo pour désherber les allées. Et on s'y met à 8-10, tous de bonne humeur, de bon matin, et voilà, c'est fait. Et
les buis ont souffert chez vous aussi?
Alors les buis ont souffert, mais pas trop, parce que Lise May arrive à les traiter alors avec de l'homéopathie, avec de la diatomite, avec un certain nombre de choses. Elle les traite de manière douce. Et pour l'instant, ils sont encore là. C'est les petits buis qui font les bordures des carrés botaniques et sans buis, plus de bordures des petits carrés.
Et pour ce qui est des bâtiments, donc ces chantiers participatifs...
Chantiers participatifs, ça ne peut pas être autrement là-bas au monastère. C'est assez sympathique, enfin c'est même extrêmement sympathique. C'est peut-être des fois un peu plus compliqué que si simplement c'était un appel d'offres, une entreprise évoque la galère. Mais là, c'est... bien sûr, le monastère n'a pas tellement d'argent, hein, c'est réel. Donc ça participe peut-être de cet aspect économique, mais pas que. Je pense que dans l'esprit des responsables du monastère, ça, on ne peut pas imaginer de faire des travaux, un projet, etc., sans associer les gens qui sont là ou qui ne sont pas là. Et donc, il y a des appels, il y a des chantiers. Donc, la couverture a été refaite entièrement. Donc, c'est un gros boulot de charpente couverture. Mais la moitié du personnel, c'était des gens qui venaient en apprentissage, qui venaient de même, quoi. Hein, c'était des bénévoles. De même pour la cour. Donc, il y a eu un gros travail sur la cour. Il y a eu des pavés qui ont été reconstitués, qui simulent un petit peu la mémoire d'un ancien cloître, par exemple. Et il a fallu faire les joints de tous ces pavés. Et ça a demandé des dizaines de bénévoles pendant des heures et des heures et des heures à faire les joints, etc. Et tous les travaux qui se font presque naturellement avec des bénévoles.
Voilà. Vous encouragez le circuit court, justement, pour ces restaurations, en vous adressant à des artisans plutôt locaux,
bien sûr,
de manière à réduire les coûts aussi.
Oui, bien sûr. Donc, oui, c'était une entreprise locale pour la couverture, c'est, pour l'aménagement de la cour, c'était aussi quelqu'un de local, très sympathique. Voilà, donc à la fois les entreprises, il y a quand même des entreprises, c'est des entreprises locales, mais qui sont quasiment toujours assistés et les entreprises qui sont retenues le sont à la condition qu'elles acceptent d'accueillir, parce que ce n'est pas évident non plus. Il faut être bien organisé d'un point de vue assurance, etc. Mais ça marche. Qu'elles soient d'accord pour accueillir des bénévoles, voilà, pour les aider, se former.
Pour les auditeurs qui voudraient connaître la programmation, donc nous les invitons à se rendre sur le site internet précédemment cité, donc 3xw-monastère.org.
Bravo.
Et ils peuvent également s'abonner à la page Facebook du monastère et chaque fois qu'il y a un événement, ils seront informés par ce biais.
Et je vous remercie donc François Bordet, Bruno Robin et Dominique Zand de vous être déplacés à Erdiwa pour annoncer cette fin d'année 2019 de la saison de l'Ancien Monastère.
Merci.
Merci. Bonne soirée. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Je me jette.